Je représente M. Arnaud Octave. Je vous ai apporté les salutations sincères de M. Donc, avant de commencer, il faut un petit peu parler sur l'importance de la théorie de l'évolution. Quand je dis la théorie de l'évolution, en fait, c'est la théorie pour supposer qu'un idée est une théorie. Il faut montrer des preuves scientifiques. Mais quand nous allons voir tous ensemble, il n'y a pas de preuves crédibles pour montrer, pour prouver la théorie de l'évolution, donc j'oserais plutôt dire hypothèse de l'évolution. Selon la théorie d'évolution, selon la théorie, tous les êtres vivants, les hommes, toutes les espèces, tous les êtres vivants sont descendus d'un ancêtre commun. Donc, cette explication-là se fonctionne avec des mécanismes qui sont inconscients. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'intelligence. Les mécanismes évolutifs, soi-disant scientifiques, se fonctionnent par hasard et par chance. Les deux mécanismes sont appelés la sélection naturelle et les mutations, je les explique. Donc, si on voit un être vivant devant nous, il peut y avoir seulement deux explications. Soit il a été créé par une intelligence supérieure, qui est le Dieu, en bas, ou bien il est là par chance. C'est tout. Il n'y a pas une autre explication qu'on peut supposer. Ça veut dire qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire que toutes les autres suppositions sont enfin, et ils vont vers une direction, soit par hasard, soit par la création. Donc cette supposition est aussi acceptée même par les évolutionnistes. C'est Douglas Futurma, un d'eux, il est un évolutionniste. Il est un scientifique qui est très connu dans tout le monde entier, et il dit, quand nous regardons à la vie sur Terre, si nous voyons que la vie émerge tout à coup avec sa forme parfaite et complète, donc il dit que si nous voyons que les êtres vivants apparaissent tout d'un coup sur la Terre avec leur forme parfaite et complète, qu'est-ce que ça veut dire? Avec les organes parfaits, avec la symétrie, disons. On doit accepter, il continue, alors nous devons admettre que la vie est créée et non le résultat du hasard. Donc je vais vous rappeler ce slide plus tôt, Inch'Allah, dans les slides suivants. Et Futurma accepte. Donc on va montrer scientifiquement que la vie ne peut pas être un résultat des chances et que les preuves soi-disant scientifiques supposées par l'évolution, s'ils ne sont pas corrects, s'ils sont fausses, donc la création, l'autre alternative, restait la seule vraie solution, Inch'Allah. Et on va voir que la science supporte la création. Donc, on continue. Nous avons des questions à poser aux évolutionnistes, aux défendeurs de la théorie. Nous avons trois questions. La première question, c'est si un tel processus dans le passé a eu lieu. Donc, comment se fait-il, comment la vie est-elle apparue sur Terre? Comment la première entité vivante est apparue sur la Terre, c'est-à-dire la première cellule vivante? Nous voulons une explication crédible et logique. La deuxième question, c'est quels sont les mécanismes de l'évolution? Quels sont les pouvoirs qui poussent ce processus évolutif qui fait changer, qui fait transformer les espèces à partir d'un à une autre? Quels sont les mécanismes? Et troisièmement, si toutes les espèces sur Terre étaient le résultat de l'évolution, alors il aurait dû y avoir une vaste quantité de preuves de fossiles. Nous voulons voir des fossiles prouvant ce processus évolutif, ce période de transition, de transformation des espèces de l'un vers l'autre. Donc, on va étudier maintenant d'une manière très simple, puisqu'on est limité de temps, je ne vais pas aller au détail, spécialement pour l'origine de la cellule. Mais donc, si vous avez des autres questions après le discours, je vais avoir des questions. Donc, on peut parler, on peut discuter sur ce sujet-là. Donc, la première cellule. Quand on nous demande comment se fait-il que la première cellule, puisqu'on sait que la cellule est une entité qui est très très complexe, et il vit avec une intelligence. Je vais vous montrer comment se fait-il que la première cellule se forme sur la Terre. Donc, une réponse qui est très simple, ils disent par chance. Par chance. Dans la profondeur des océans, ils disent qu'avant 4,6 milliards d'années, par les conditions des temps, avec le foudre, les pluies, comme ça, avec la chance, la première cellule, entité qui a la vitalité, s'est formée par chance. Mais on sait très bien que pour avoir une seule cellule, vous avez besoin des protéines, n'est-ce pas? Une seule protéine n'est pas. Même une seule protéine ne peut pas se former par chance, parce que nous savons très bien scientifiquement que pour produire une seule protéine, vous avez besoin au moins 100 différentes protéines. Donc, dès le premier stade, jusqu'au début, la formation d'une protéine existant d'autres protéines est indispensable. Nous avons besoin au moins 100 protéines différentes. De plus, la cellule, c'est très très complexe. Il y a la mitochondrie, il y a l'ADN. Donc, il y a l'endoplasmique réticule, le nucléus. Il y a la membrane, qui est très importante, a une intelligence. La membrane peut réfléchir, faire des plans, deviner. Par exemple, si un virus, virus vient pour rentrer dans la cellule, la membrane peut réfléchir et voir si c'est bon ou mauvais pour la cellule. Donc, il ne laisse pas rentrer. Ou bien, si c'est un molécule de sucre, par exemple, il peut comprendre, il peut voir que c'est bon pour la cellule et laisse rentrer. Donc, la membrane de la cellule vit d'une manière très intelligente et ils réfléchissent. Et pour la production d'un seul protéine, vous avez besoin de tous ces organelles-là qui se trouvent dans la cellule. Si un de ces organelles, nucléus, endoplasme, réticulum, Golgi, apparatus Golgi, se manque, donc la production. On ne peut pas faire la production, c'est pas possible. Et si on peut faire une allégation comme ça, et imaginez un grand bâtiment, comme disons un gratte-ciel. Vous savez très bien que les gratte-ciels sont complexes, sont des bâtiments complexes. Quand on construit un gratte-ciel, on utilise le ciment, le fer, n'est-ce pas? Et il y a des fenêtres, des toits, il y a une circulation de l'eau, il y a un système de chauffage. Même ils sont contrôlés par les systèmes d'ordinateur, par l'informatique. Donc, si vous prenez tous ces éléments-là, le fer, le ciment, et vous le jetez au milieu de la rue, Et si vous attendez pour milliers d'années, est-ce que ça va, tous ces matériaux-là, ça va se former comme un bâtiment, comme un gratte-ciel? Est-ce qu'il est possible? Non, pas du tout. Parce que nous savons très bien que si on a tous les matériaux nécessaires pour produire un gratte-ciel, il faut l'intelligence, il faut des ingénieurs, il faut des ouvriers. Les ingénieurs doivent faire les plans. Et les ouvriers doivent travailler parmi ce plan-là. Donc, sans intelligence, si vous avez même tous les matériaux nécessaires pour construire un gratte-ciel, ce n'est pas possible. Et on sait très bien que la cellule, microbiologiquement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc si vous avez des protéines, des molécules, si vous pouvez avoir tous, mais par chance, ce n'est pas possible que vous aurez une cellule vivante, une cellule qui a la vitalité. Donc, la théorie de l'évolution s'effondre dès le stade initial de la vie. Donc, après qu'on montre que la vie ne peut pas se former par chance, ce n'est pas la peine de discuter si nous sommes descendus des singes ou pas. C'est juste que le stade initial, la théorie de l'évolution s'effondre. Mais donc, on va voir, bien sûr, comment... Et on a voulu tester. Nous avons voulu faire une expérience sur ça. Pour les évolutionnistes, on leur dit, vous pouvez, pour former la vitalité, pour la cellule, pour une seule cellule, vous pouvez prendre tous les matériaux que vous voulez, et vous pouvez prendre une balise comme ça, et vous pouvez les mettre dedans. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez prendre des matériaux de la Lune, s'il vous plaît. Vous pouvez le chauffer, ce valise. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez donner de l'électricité. Mais dans les laboratoires, avec des efforts scientifiques, ce n'est pas possible du tout. On a compris que la vitalité, tous les chats, les chiens, les animaux, les plantes, les fleurs, les papillons, l'humain, les professeurs, ne va pas sortir de ce pari, ce n'est pas possible. Parce qu'au 21e siècle, nous savons très bien que la vie vient de la vie. Pour avoir la vie, vous devez avoir une autre cellule vivante. Vous ne pouvez pas obtenir la vitalité à partir des matériaux invivants, disons, et qui n'ont aucune vitalité. Donc, la deuxième question qu'on voudrait demander, c'est quels sont les soi-disant mécanismes évolutionnels? Et il explique ça avec deux mécanismes, la sélection naturelle et les mutations. Donc, ce sont deux mécanismes complémentaires. C'est premièrement, c'est appelé néo-darwinisme. Et les mutations aléatoires permettent les changements dans la structure génétique des êtres vivants. Et ces changements sont choisis par la sélection naturelle. Et de cette façon-là, les êtres vivants, les espèces, évoluent de cette façon. Avec des petits changements, minuscules, et graduellement, lentement. C'est comme monter les escaliers, un par un. Et chaque niveau être pour l'avantage de l'être vivant. C'est nécessaire. Sinon, l'évolution, théoriquement, il n'y aura pas d'évolution. Lentement, et chaque escalier doit élever l'être animal à un niveau, à un autre niveau. Donc, la sélection naturelle. Imaginez un troupeau de cerfs qui sont menacés d'être attaqués par des animaux sauvages. Donc, on sait très bien que après un temps, les individus qui sont faibles et qui ne peuvent pas courir très vite vont sélectionner, disons, les animaux sauvages vont les rattraper. Donc, après un temps, ce troupeau de cerfs, tous les individus vont courir plus vite. Voilà. C'est vrai, c'est un fait scientifique. Mais, peu importe combien de temps dure ce processus, les cerfs ne vont jamais transformer en une autre espèce. Parce que nous savons, dans la science génétique, nous dit que tous les êtres vivants ont une limite génétique qu'ils ne peuvent pas dépasser. Ce troupeau de cerfs, les individus ne peuvent pas transformer en un autre animal, par exemple, disons un zèbre ou un girafe. Donc, les mutations sont des effets nuisibles pour l'être vivant parce que les mutations sont les effets radioactifs qui changent les places des nucléotides dans l'ADN. Ça change les places ou déchire totalement. C'est tout à fait nuisible pour les êtres vivants. Donc, c'est l'Anganathan, un évolutionniste, dit sur ce sujet. Tout d'abord, les véritables mutations sont très rares dans la nature. On ne pouvait pas trouver beaucoup de mutations dans la nature. Et de plus, deuxièmement, du fait qu'elles sont aléatoires, la plupart des mutations sont nuisibles, car n'obéissant pas à des changements ordonnés dans la structure des gènes. Le moindre changement aléatoire dans un système extrêmement ordonné se fera de la pire des façons. Par exemple, si un séisme devait secouer une structure telle qu'un bâtiment, cela entraînerait un changement aléatoire dans les fondations de l'édifice qui, selon toute probabilité, n'apporterait aucune amélioration, développement, améliorer l'être vivant à un niveau plus haut. Donc les mutations ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas ajouter aucune information dans l'ADN de l'être vivant. Ils peuvent changer les places, mais ne peuvent pas ajouter. Donc, on sait scientifiquement que 99% des mutations sont nuisibles et seulement 1% est neutre, pas bénéfique. On continue rapidement. Je vais passer. On a fait des expériences sur les mouches, des fruits, mais on n'a pas pu obtenir, et les scientifiques n'ont pas pu obtenir des résultats bénéfiques, des mutations bénéfiques. Et ici, il faut répéter pourquoi la mutation n'est-elle pas un mécanisme évolutionnaire. Premièrement, l'effet direct des mutations est nuisible. Deuxièmement, les mutations n'ajoutent jamais de nouvelles informations à l'ADN de l'organisme. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser les mutations comme un pouvoir, comme un mécanisme évolutif qui pousse ce processus. Bon, c'est Richard Dawkins. Je vais arrêter celui-ci, je vais vous expliquer parce qu'il parle en anglais. Richard Dawkins, qui est-ce Richard Dawkins? Richard Dawkins, c'est un scientifique, c'est un zoologiste à l'université d'Oxford. Il est le numéro un athée évolutionniste. Et ce monsieur-là va poser une question à Richard Dawkins. Il va dire celui-ci. Est-ce que vous pouvez nous montrer un mécanisme qui peut ajouter de l'information dans le génome, dans l'ADN des êtres vivants? Et on va écouter à la réponse de Richard Dawkins.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
Well, après une seconde, il dit, s'il vous plaît, arrêtez l'enregistrement. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mécanisme qui peut ajouter de l'information dans l'ADN des êtres vivants. Bon, c'est après ça que c'est l'année dernière, je pense, que Richard Dawkins a accepté que l'origine de la vie vient de l'espace. Les extraterrestres ont apporté. Voilà. Si vous allez, vous faites Google ou YouTube, Richard Dawkins, le dernier film de Richard Dawkins, vous allez voir, et il dit lui-même, vous pouvez regarder quand il dit ça, c'est très intéressant. Donc il a choisi l'origine comme l'origine de la vie, comme les extraterrestres, c'est très intéressant. Donc, on continue. Les mutations ne sont pas conscientes de la symétrie ni de l'harmonie. Il y a de la symétrie dans la nature. Par exemple, dans votre visage, les yeux sont symétriques, n'est-ce pas? Les mains, les deux jambes sont symétriques. Vous avez un cœur, il y a des valves cardiaques qui sont symétriques. Et quand vous regardez le papillon, par exemple, vous voyez le dessin sur les ailes qui sont symétriques. Donc, quand nous demandons aux défendeurs des de la théorie de l'évolution, comment se fait-il qu'il y a une symétrie si parfaite comme ça, la réponse est, c'est très intéressant, il y a une lutte dans la vie pour survivre. Les êtres vivants doivent attirer le mâle, par exemple, et la femelle de la papillon. Au résultat des chances, il se fait le dessin pour attirer le mâle, parce qu'il doit avoir des enfants. Voilà, c'est une explication, illogique, mais une explication. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui a une symétrie et qui n'est pas que les évolutions n'ont aucune explication à faire sur ce sujet-là. Je parle des flacons de neige. Il faut bien réfléchir. Il y a des millions et des milliards de flacons de neige autour de la Terre, n'est-ce pas? Et scientifiquement, on sait très bien qu'un flacon de neige, le dessin d'un flacon de neige est unique. Par exemple, vous prenez dans la main, vous allez sur le Mont Blanc, vous prenez de la neige, vous en lisez, et ces deux scènes-là, vous ne pouvez pas trouver un autre dans tout le monde entier. Et des trillions de trillions des autres dessins dessinés ont toujours six côtés, exactement. Pourquoi pas cinq? Pourquoi pas quatre, des rectangles ou des triangles? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une raison? Je vais vous montrer des autres dessins. Voilà. De plus, voilà. Si ça ne suffit pas, je vais vous montrer d'autres. Voilà. De plus, voilà. Et voilà. Et le sujet critique ici, ça se consiste des atomes de hydrogène et oxygène. H2O, c'est tout. Il n'y a pas de vitalité dans la convergence. Donc, les mutations ne travaillent pas. Les mutations n'ont aucun effet sur les flacons de neige. Il n'y a pas la sélection naturelle, il n'y a pas les mutations. Où est la théorie d'évolution? Et tous ces millions de flacons de neige sont formés aux cieux. Bon. C'est à vous à réfléchir. Est-ce que ce petit flacon de neige peut être le résultat des chances, des coïncidences, des mutations et de la sélection naturelle? On sait très bien que c'est Allah qui crée tous ces flacons-là, tous ces flacons de neige. Et Allah a une intelligence supérieure, mashallah. On continue. Troisième question. Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques pour montrer ce processus évolutif dans le passé? Comme vous savez, il y a la science qu'on appelle paléontologie, et il analyse des fossiles. Les fossiles sont des vestiges d'êtres vivants qui ont vécu dans le passé, et nous donne des preuves scientifiques, quelles structures ils possédaient, les êtres vivants dans le passé, quelles sont des organes ou des dessins ils possédaient dans le passé. Donc, cette image-là, est un solécan. Solécan est un poisson. C'est âgé de 140 millions d'années. Et vous voyez là un dessin de solécan vivante. Et vous voyez que il n'y a aucune différence pour 140 millions d'années. Où est l'évolution? Selon la théorie d'évolution, c'est première cellule vivante soit dit ancêtre commun avant milliards d'années s'est formé par chance dans les profondeurs des océans et donc ça s'est transformé en des marins, des êtres vivants invertébrés, donc les invertébrés les poissons se sont transformés et s'est évolué en des amphibies, ont des mammifères, et à la fin de cette chaîne imaginaire, l'espèce humaine se sont transformées évoluer. Des êtres vivants qui se ressemblent aux singes. Donc, ne préfèrent pas utiliser le nom singe, mais plutôt ancêtre commun, mais ce n'est pas important du tout. Les preuves scientifiques qu'ils doivent nous montrer ne sont pas des fossiles comme ça, qui appartiennent aux espèces stables. Stables, qu'est-ce que ça veut dire stable? Ils ont tous les organes complets, parfait fonctionnement, il y a des symétries, mais ce qu'ils doivent nous montrer, ce sont des fossiles, des formes transitionnelles. Des formes transitionnelles avec les organes et les structures qui sont asymétriques, pathologiques, incomplets. Par exemple, une jambe qui sort du dos, par exemple. Ou bien un œil qui se trouve sur la jambe. Des créatures complètement différentes qu'on voit aujourd'hui. Ce que je veux dire, je vais vous expliquer avec le dessin. C'est un étoile de mer. Selon la théorie de l'évolution, l'étoile de mer s'est transformée, s'est évoluée en un poisson. La période, la séparation, c'est 100 millions d'années. Ce processus a pris 100 millions d'années. Faites attention, cette période n'est pas courte, c'est très très long. Je ne parle pas de 1 million, je ne parle pas de 5 millions, 100 millions d'années. Et ce processus de développement, il doit y avoir beaucoup de formes de transition. Nous avons présenté ici ce changement par seulement 3 illustrations, mais normalement, il doit être beaucoup plus que des milliers de formes, des formes transitionnelles. Donc, au début, vous avez l'étoile de mer, et dans le temps, ça va transformer en des poissons. Les preuves scientifiques, est-ce que nous avons des fossiles d'étoiles de mer? Oui, nous avons beaucoup de fossiles, disons des milliers. Même vous pouvez trouver le fossile juste à l'entrée du salon, vous pouvez voir. Et est-ce qu'on a des fossiles de poissons? Oui, de milliers d'eux. Et donc, logiquement, statistiquement, quel doit être le nombre des fossiles transitionnels pendant 100 millions d'années? Des trillions, des trillions, des trillions de fossiles transitionnels. Les évolutionnistes doivent nous montrer. Sinon, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y en a une seule? Non, on n'a aucun. C'était en 2007 que M. Ardan Ottawa supposé a dit que je vais donner 7 millions de dollars à ceux qui va m'apporter un fossile qui représente une forme transitionnelle. Quelqu'un d'autre? Pourquoi? Il n'y en a aucun. Donc, nous avons plus de 350 millions de fossiles déterrés aujourd'hui. 350 millions de pièces de fossiles. Et tous appartiennent à des formes stables, à des espèces stables, avec des organes parfaits, complets et symétriques. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de sélection naturelle. C'est pourquoi Charles Darwin était inquiété quand il avait écrit son livre. Il avait dit, si les espèces dérivent d'autres espèces par des degrés insensibles, pourquoi ne rencontrons-nous pas d'innombrables formes de transition? Il dit, pourquoi il n'y en a aucun? Il doit être innombrable forme de transition, il dit. Pourquoi tout n'est-il pas dans la nature à l'état de confusion? Il dit qu'il doit y avoir confusion. Qu'est-ce que ça veut dire confusion? Confusion, asymétrie, pathologie. Un genre qui sort de dos, c'est ça ce qu'il veut dire. Pourquoi les espèces sont-elles si bien définies? Tous les organes complètes et parfaits. Il continue. Pourquoi ne trouvons-nous pas de dépôts riches en fossiles appartenant à cette période primitive? C'est là une question à laquelle je ne peux pas faire aucune réponse suffisante. Il est vrai parce qu'il a raison, parce qu'il n'y en a aucun. C'est la période qu'on appelle cambrienne. La période cambrienne, le monde ne peut pas, peut-être n'est pas très familier avec vous, parce que ce période-là est utilisée pour expliquer une période avant 520 entre 520 et 550 millions d'années avant de notre jour. Donc c'est à cette période-là que 50 différentes films sont apparus soudainement, avec leur forme parfaite et complète. Phylum, qu'est-ce que ça veut dire? Phylum, sont des groupes des animaux. Par exemple, les invertébrés. Les invertébrés sont un phylum. Donc, à cette période-là, on voit des animaux avec leur on voit leur apparition soudaine de tous les phylums. Ils n'ont aucun ancêtre préalable et ils ont une complexité incroyable. Vous allez voir, il y a des animaux qui ont la circulation du sang, par exemple, le système est très complexe. Les yeux qui sont très, très complexes. Et Stephen Jay Gould, c'est un évolutionniste américain, il dit que les archives fossiles ont causé à Darwin davantage de peine que de joie. Rien ne l'a attristé plus que l'explosion cambrienne, l'apparition de presque tous les concepts organiques complexes. Apparition soudaine. Si vous vous rappelez de la première slide, au début de mon discours, Darwin spontanément avait dit, si on voit que la vie apparaît tout d'un coup, soudainement, on doit admettre que la vie, les êtres vivants ont été créés, il avait dit, si vous vous rappelez. Donc, qu'est-ce qu'on voit? À la période cambrienne, 50 phylums apparaissent soudainement avec leur organe parfait et complet. Et alors, on doit accepter la création. Donc, voilà, je vous le montre une complexité. C'est un animal qui s'appelle trilobite. Et il a le premier œil dans l'histoire de la vie. Le premier œil qui est très complexe, et cet œil est âgé de 520 millions d'années. Il a une structure cellulaire comme ça, et tous ces petits cellulaires sont hexagonales et contiennent deux différentes lentilles. Ce petit structure-là, dans un œil, il y a 600 petites cellules, et totalement dans une trilobite, vous pouvez trouver, disons, 2400 de lentilles différentes. C'est un système de pouvoir, c'est un système très complexe. Et si on fait une comparaison entre les animaux vivants, les insectes vivants aujourd'hui, la complexité est la même. Si vous vous rappelez, je vous avais expliqué, l'évolution doit être d'un stade primitif à un stade complexe. Pas rapidement, lentement, avec des changements minuscules, comme monter les escaliers. Mais voilà, il n'y a pas de changement dans le niveau de complexité. Le premier œil sur la Terre était aussi complexe, si vous le comparez avec les yeux des insectes qui vivent aujourd'hui. Pas de changement dans le niveau de complexité. Donc, pas d'évolution, vous voyez. Et on continue. C'est une mythe encore très intéressante, c'est plus intéressant, c'est l'allégation. Ils disent que les poissons se sont transformés en des reptiles. C'est une évolution des poissons en des reptiles. Dans des millions d'années. Bon, on sait très bien que si vous enlevez le poisson de la mer, dans quelques secondes, il va mourir. Donc, est-ce que vous connaissez un animal pareil qui a un luxe d'attendre des millions d'années que la mutation va venir changer l'ADN et il va être ceci, cela, ça va être choisi par la sélection naturelle. Bon, c'est pas très possible comme ça. Nous savons que les mutations ne peuvent pas ajouter une information dans l'ADN, et les poissons et les reptiles sont deux groupes d'animaux qui sont totalement différents. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Voilà. Des poissons ont des nageoires, celles-ci devraient se transformer en des pattes. Nageoires en des pattes. C'est pas suffisant. Les poissons respirent par les branchies, elles devraient se transformer en poumons. Voilà. Le système génétique, c'est tout à fait différent parce que les brancheries utilisent filtre l'oxygène dans l'eau, et les poumons sont capables d'utiliser l'oxygène qui est dans l'atmosphère. C'est tout à fait différent. Et le changement des Mentionner un dépouillement n'est pas suffisant puisque le mécanisme porteur du foie des poissons est adapté aux conditions sous-marines, il devrait être adapté aux conditions terrestres. Les structures des os, des vertébrés, sont totalement différentes. Et de plus, ce n'est pas suffisant, le mécanisme de poisson est adapté aux conditions sous-marines, il devrait être adapté aux conditions terrestres. Bon, ce n'est pas scientifiquement. Et il n'y a aucune explication de, crédible des poissons en dentine. Mais, bien sûr, ils ont utilisé des fossiles, soi-disant forme transitionnelle, et, comme un exemple de passage. Ils ont dit que ce décante était une forme transitionnelle, mais on a compris que, si vous voulez, si je peux vous donner d'autres informations détaillées après le discours, s'il vous plaît. Curtin Latimer a pêché des exemples vivants de sous-éléphants et nous avons vu que les sous-éléphants ne sont pas des formes transitionnelles. On passe rapidement. Oui, quelle est l'origine des oiseaux? Le vol. C'est très complexe parce que nous savons très bien qu'il y a des oiseaux dans la nature qui peuvent battre des ailes qu'ils ont 1000 fois, 2000 fois en une seconde. C'est une action qui est très complexe. Et pour l'ancêtre des oiseaux, pour le vol, les évolutionnistes nous offrent un groupe d'animaux qui est très intéressant, des reptiles, mais parmi les reptiles, ils utilisent un animal très intéressant. Ils disent que les ancêtres des oiseaux étaient des dinosaures. Oui. Les dinos étaient les ancêtres des oiseaux. Ils ont deux explications, deux théories différentes. La théorie cursoriale et la théorie arboricole. Ce sont des mots latins, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Vous allez juger vous-même, pour vous-même, si ce sont des explications scientifiques ou non. La théorie cursoriale dit que les oiseaux, quand ils attrapaient, pour la nutrition, quand ils attrapaient, quand ils chassaient les mouches, en courant après les mouches et utilisant les pattes devant, comme ça, les ailes se sont transformées, les pattes devant se sont transformées en des ailes, comme ça. Au début, ce sont, et bien sûr, ce dessin-là, je voudrais souligner, ce n'est pas nous qui les avons dessinés, ce sont les sources évolutionnaires. C'est leur explication, pas notre. Au début, il est après la mouche, et à la fin, hop, il est capable de voler. Bon, c'est tout simple comme ça. Bon, dans ce scénario-là, il y a quelque chose qui est très intéressant. Un élément de ce scénario, bon, nous sommes en face des évolutionnistes, des scientifiques, qui essayent d'expliquer la source du vol en utilisant un animal qui vole déjà. C'est la mouche. La mouche vole déjà. Et normalement, on veut demander cette question. Ne serait-il pas plus facile d'expliquer l'origine de la mouche au lieu de faire voler ce dinosaure extravagant? Bon. Et ils n'ont aucune explication. Vous savez pourquoi? Parce que les mouches ne sont pas des animaux simples. La façon dont ils volent, c'est très complexe, comme vous savez. Un petit mouche, une petite mouche, bat des ailes 1000 fois en une seule seconde. Et ce petit mouche-là, vous savez très bien que c'est très très difficile de l'attraper. Il peut faire des manœuvres soudainement comme ça. Et il va sur le mur. Tout d'un coup, il monte sur le toit et il peut voir tous les angles autour d'eux. Et bon, ils n'ont aucune explication comme ça pour l'origine de la mouche. Et de plus, ils n'ont pas d'autres explications pour des animaux très intéressants, par exemple des baleines. Voilà, ce Archaeopteryx-là est soi-disant non-transitionnel, mais on a compris que les Archaeopteryx ne peuvent pas. Ils étaient seulement des oiseaux volants. Le magazine Science, c'est un magazine qui est très connu, évolutionniste, ils ont dit, l'Archaeopteryx ne pourrait probablement pas nous dire grand-chose sur les origines des plumes et de voir chez les vrais proto-oiseaux, parce que l'Archaeopteryx était au sens moderne un oiseau. Et de plus, on a des preuves scientifique que, à la même période que avec l'Archaeopteryx, il y avait des autres oiseaux qui vivaient. Confucius ornis, âgé de 120 millions d'années, et Yeringornis, âgé de 120 millions d'années, ces oiseaux-là, ils vivaient en même temps avec les Archaeopteryx, donc scientifiquement, on a vu que l'Archaeopteryx ne peut pas être un être vivant qui est transitionnel comme un ancêtre des oiseaux. On continue, voilà. Quels sont les ancêtres des mammifères? Parce que, vous savez...
These bottlenose dolphins live in the North Atlantic Ocean. Dolphins are not fish, but are intelligent mammals.
Parce que vous savez qu'il y a des baleines qui pèsent plus de 60 tonnes de longueur de 40 mètres. Il n'y a même pas un animal aussi grand sur la Terre pour pouvoir être le candidat pour être l'ancêtre des mammifères, comme des baleines. Mais l'explication que Charles Darwin lui-même a fait comme l'ancêtre du baleine, c'est très intéressant, il a dit que ce sont les ours. Les ours qui jouaient et pêchaient dans des rivières, se sont transformés en des baleines. Bon, un autre problème. Voilà. Les ours qui se transforment en dépendants, c'est la supposition de Charles Darwin lui-même, mais bien sûr, les autres évolutionnistes n'ont pas aimé cette explication-là et ils ont enlevé cette explication dans les éditions postérieures de son livre, qui était publié à la deuxième période du 19e siècle. Et on continue. Le mythe concernant la soi-disant évolution de l'homme. Voilà. C'est très ouvert à discussion. Pourquoi? Très simplement, dans le passé, il y avait plus de 6000 variations, 6000 espèces de singes qui ont vécu. Mais la majorité, la plupart de ces espèces de singes sont éteintes. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui à peu près 145 espèces de singes vivantes. Et donc, tous les fossiles qui appartiennent aux singes qui sont éteintes sont une grande source pour les évolutionnistes, pour faire des reconstructions, pour les aligner du petit au grand. Par exemple, les crânes, ils prennent des crânes et selon leur volume peut-être, par exemple, ils alignent. Et donc, ils font une chaîne imaginaire comme ça. Voilà. C'est une soi-disant arbre généalogique de l'homme. Et à la fin, il ajoute les os, les squelettes des humains, des races des humains qui sont éteintes dans le passé, comme le Néandertal par exemple. Les Néandertal sont des races éteintes. Bon, les pygmées, vous savez que leur taille moyenne est plus courte. Donc, si l'espèce pygmée était éteinte aujourd'hui, ce que les évolutionnistes feront, de prendre les crânes des pygmées et le monter ici en disant, voilà, votre ancêtre, mi-homme, mi-singe, et on sait très bien que les pygmées sont des humains comme nous, et ils n'ont rien à faire du tout avec les singes. Donc, ce type de compte, disons, ce type d'explication existe dans les contes, c'est possible. On sait très bien que les grenouilles peuvent se transformer en des princes, c'est possible. Mais si ces explications-là ont fait au nom de science, donc on doit répondre à ça, parce que ce n'est pas logique du tout. Donc, Dans l'histoire de la vie, il y a eu des singes et ils continuent à exister. Il y a eu des hommes et ils continuent à exister, mais des créatures ni singes ni hommes n'ont jamais existé. Pourquoi? Donc je vous ai expliqué. Et c'est Lucien II. Et pour longtemps, ils ont dit que Lucien était mi-homme, mi-singe. Mais c'est le magazine français La Science et Vie. On préparait un article sur Lucie. Il dit adieu Lucie. Une nouvelle théorie déclare que le genre Australopithèque n'est pas la racine de la race humaine. Les grands primates, considérés comme les ancêtres de l'homme, ont été retirés de l'équation de cet arbre généalogique. Tout le temps, les évolutionnistes supposent un nouveau squelette, un crâne ou une mâchoire. Et ils disent que voilà notre ancêtre, c'était mi-homme et singe. Mais après quelques temps, ils disent, excusez-nous, nous avons compris que c'est seulement un singe ou c'est seulement un crâne des hommes. Par exemple, l'homme de Néandertal, ils ont compris que c'était une race humaine qui était éteinte. En 1856, il a dit, voilà notre ancêtre. Et ils ont dit en 1960, pardonnez-nous, on a compris que ce n'est plus comme ça. Et c'est toute la même, toutes les fois, c'est la même chose. L'homme de plus de temps, vous allez voir que c'est une fraude. Ils ont dit, voilà votre ancêtre en 1912, et ils ont retiré en 1953. Et Spiritus en 1922, après 5 ans, ils ont dit, excusez-nous, ce n'est pas l'ancêtre des autres. Zinjanthropus et Romapithèque, je vais vous tous montrer les reconstructions fausses. Voilà, une reconstruction, une image imaginaire, un dessin imaginaire. Je veux que vous voyez le fraude ici. Qui est-ce qui est quelque chose n'est pas normal ici. Voilà, les yeux. C'est un orang-outan. Mais les yeux sont remplacés par les yeux des humains. N'est-ce pas? Pourquoi? Pour seulement donner une image à nos sous-conscients que, auparavant, nos ancêtres étaient mis en mixage. Voilà le résultat. Quand vous ouvrez les journaux, les magazines, dans les manuels scolaires, vous voyez des images comme ça, mais ils n'ont aucune valeur scientifique. Je vais vous expliquer pourquoi. Des reconstructions. Ce sont des images préparées comme ça, ils prennent des masques dans les... et à la fin, ils peuvent dessiner une créature comme ça, avec les cheveux, le nez, et ils le font très bien parce que c'est une imagination, mais il n'a aucune valeur scientifique. Parce que les tissus organiques ne laissent jamais des traces sur les os, sur les fossiles. Quels sont les tissus organiques? Ce sont les cheveux, le nez, les oreilles, la peau, les yeux. Ce sont des tissus organiques. Et si vous avez un crâne dans la main, vous ne pouvez pas savoir si cet homme était un Américain ou un Japonais ou un Français. Vous ne pouvez pas savoir si ses cheveux étaient courts ou longs, s'il avait des yeux bleus ou la couleur de la peau. Vous ne pouvez pas scientifiquement deviner ça. C'est pas possible. Mais les révolutionnistes, en utilisant l'imagination, ils peuvent très bien deviner tout. Vous allez voir. Ernst Hutton, il dit tenter de reconstituer les tissus organiques est une entreprise encore plus hasardeuse. Les lèvres, les yeux, les oreilles, les extrémités nasales ne laissent aucun indice décelable sur la partie osseuse sous-jacente. On peut ainsi tout aussi bien modéliser sur un crâne néandertalien les traits d'un chimpanzé que les lignes du visage d'un philosophe. Si vous avez un crâne, vous pouvez le dessiner comme un philosophe ou bien comme un singe. C'est à vous. C'est à votre imagination. Ces soi-disant restaurations d'anciens types humains n'ont qu'une très faible valeur scientifique, voire pas du tout, et elles ne peuvent qu'induire en erreur le public. Aussi, ne vous fiez pas à ces reconstructions. Voilà, c'est tout. Scientifiquement, ils n'ont aucune valeur scientifique. Et voilà, c'est l'imagination évolutionniste. Une seule plante, un seul temps, voilà le résultat. De plus, trois illustrations différentes basées sur un seul crâne dans trois différentes sources évolutionnelles. Nature Journal avec Maurice Wilson et Sunday Times. À partir d'un seul crâne, ils ont pu dessiner trois illustrations différentes pour tromper, pour nous tromper, c'est tout. De plus, à partir d'un seul dent que vous allez voir ici, voilà, ils ont trouvé un seul dent, aux États-Unis, en Nebraska, en 1912. Et ils ont dit, voilà votre ancêtre. Ils ont préparé des articles soi-disant scientifiques dans les manuels scolaires pour des années, ils ont expliqué que ce dent-là était notre ancêtre imaginaire qui ont appelé homme de Nebraska. Mais à ce point-là, les autres scientifiques, ils ont dit que, et vous exagérez, hein, vous ne pouvez pas raconter toutes ces histoires-là, toutes ces choses-là, à partir d'un seul dent. Et donc, ils ont fait des autres recherches dans le même endroit. Et ils ont trouvé les autres vestiges de cet être vivant. Et ils ont compris que ce dent ne appartenait pas à l'homme de Nebraska. Voilà l'homme de Nebraska. Voici l'homme de Nebraska avec sa femme. Des cheveux longs, hein? Des cheveux longs. Un dent, des cheveux longs. Des cheveux longs. Sa femme, l'environnement dans lequel il vivait et les instruments qu'il utilisait. Et donc, ils ont compris que ce dent n'appartenait pas à un homme. Et non plus, ils ont compris qu'il n'appartenait pas à un singe non plus, ils ont compris que ce dent appartenait à un porc sauvage. Pour des années, ils ont raconté toutes ces histoires-là, ces contes-là. Voilà votre mi-homme, mi-singe, ancêtre. Mais ce qu'on voit, ce sont des scientifiques ici, dans ce... Regardez, maintenant, voyez l'expression dans le visage. Ils sont très contents, n'est-ce pas, avec la fièvre. Très contents. Vous voyez celui-ci, ce monsieur-là, très content. On a trouvé quelque chose qui est très important. Ils ont trouvé une crâne qui s'appelle Piltdown. Hein, et ils ont dit en 1912 que voilà votre ancêtre qui est âgé de 400 000. Il est âgé de 400 000. Et donc, ils ont pris dans le British Museum en Angleterre. Et pour 45 ans, ils ont raconté des histoires, ils ont préparé des articles, ils ont invité des étudiants et ils ont exposé à tout le monde dans les magazines scientifiques comme ça. Et un jour, Charles Oakley, en 1948, il a inventé une autre méthode de datation, méthode de fluoring. Et donc, il a commencé à étudier, à dater tous les fossiles qui se trouvent dans le British Museum. Et quand il a daté ce Piltdown, hein, il a vu que les datations de la mâchoire et le crâne étaient différentes. Donc, ils ont compris que le crâne de cette Piltdown, hein, appartenait à un humain qui était seulement 500 qui était âgé de seulement 500 ans, et la mâchoire appartenait à un singe. Il les attachait comme ça. Voilà. Ils les ont attachés. Et pour le faire vieillir, ils ont teinté ça dans le potassium de bichromate. Potassium de bichromate. Pour le faire vieillir. Et donc, on a tout de suite. Après, ils ont tout de suite enlevé ce Piltdown du British Museum et ils ont dit, pardonnez-nous, c'était sûrement une fraude. Donc, Henry G, c'est l'éditeur en chef du magazine Nature. Nature, aux États-Unis, c'est un magazine scientifique qui est très connu et évolutionniste, bien sûr. Ils disent, prendre une ligne de fossiles et prétendre qu'il représente une lignée n'est pas une hypothèse scientifique, qui peut être mise à l'épreuve, mais une affirmation qui a la même validité que des histoires amusantes pour l'heure du coucher. Peut-être même instructif, mais non scientifique. Voilà. La science est anti-darwiniste, anti-athée. La science a vaincu l'imposture évolutionniste qui a été suggérée en masse depuis tant d'années. On a vu que la science ne peut pas expliquer l'origine de la vie. Excusez-moi, le darwinisme ne peut pas expliquer l'origine de la vie parmi les mutations et la sélection naturelle. Mais la science montre que la seule explication qu'on peut faire sur l'origine de la vie, c'est la création, mais pas une autre chose. La vie est si complexe qu'il ne peut pas être le résultat des chances et des coïncidences. La science est au service de ceux qui croient en Dieu et profite aux croyants sincères. Il faut dire que nous supportons les croyants, les musulmans supportent la science. C'est très utile. Inch'Allah, c'est un instrument pour nous pour comprendre la création en détail. Inch'Allah. Et on voit la création d'Allah en détail. Donc, je voudrais terminer avec un verset de Coran. C'est nous qui vous avons créé, pourquoi ne braviez-vous donc pas? C'est surat al-Baqiyah. Donc, ne vous en doutez jamais que tous les êtres vivants, les hommes, tous les gens, les animaux, sont créés par Allah. Et Allah est le Dieu. Inch'Allah est le créateur de tous les cieux et de toute la terre et tous ceux qui trouvent entre eux. Merci beaucoup pour m'écouter.
Herkese selam ediyorum. Herkese esenlik, güzellik, iyilik diliyorum. Bütün Fransız arkadaşlara, Müslüman kardeşlerime, Hristiyan ve Musevi arkadaşlara da güzellikler, esenlikler diliyorum. Müslümanlık sevgi dini, barış dini, kardeşlik dini. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin ağır baskısı zamanında biliyorsunuz Hristiyanların yanına Müslümanları göndermişti. Hicret etti Müslümanlar. Hicretin amacı Hristiyanların yanında rahat etmekti. Nitekim de onların yanında daha rahat ettiler, daha huzurlu oldular. Hristiyan hanımlarla evlenilebiliyor, Musevi hanımlarla evlenilebiliyor. Yemekleri yenir, ticaret yapılır. Arkadaşça, kardeşçe bir bağ olur. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sağlığında uygulamış. Hatta mübarek cübbesini çıkarıyor, seriyor. Onun üzerine oturuyorlar. Hristiyanlar, Museviler, yani onları ağırlarken zaman zaman yaptığı güzel bir jesti onun. Güzel bir tavrı. Dolayısıyla Hristiyanlara karşı da, Musevilere karşı da, hatta ateistlere karşı da şefkatle yaklaşmamız gerektiği açıktır. Dinin bir gereğidir. Çünkü kalbi dine ısındıracak olanlara da para veriliyor biliyorsunuz. Yani imkan tanınıyor. İşte yiyecek veriliyor, eşya veriliyor, imkan veriliyor. Kur'an'da var ya kalbi ısındırılacak olanlar diye.
Evet hocam.
Evet. Dolayısıyla sevdiren, şefkatli bir din anlayışıdır İslam dini. Kardeşlerimizin de bu gözle olaylara bakmasını istiyoruz. Aleviler, Bektaşiler, Şiiler, Caferiler, Sünniler, Vahabiler hepsi kardeştir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen herkes birbirinin kardeşidir, birbirinin dostudur. Ayrılık, tefrika İslam'da haramdır. Allah ayette söylüyor, Müslümanlar kardeştir diyor. Aksi olmaz. Yani Kur'an ayetleri hep Müslümanların topluluğuna hitap eder. Müslümanları tek bir topluluk olarak kabul ederek hitap eder. Hatta Cenab-ı Allah kurşuna kaynatılmış binalar gibi birlikte mücadele edenleri Allah sever diyor. Kur'an ayetidir. O yüzden özellikle Fransa'da Fransız halkı nezih, kibar bir toplumdur. Zarif insanlardır. Orada İslamiyet'in anlatılması, Darwinizmin geçersizliğinin anlatılması çok hayati bir konu. Darwinizmin geçersizliği doğru. Yani bilimsel bir gerçek. Çünkü Darwinizm doğru olsaydı biz derdik, doğru derdik. Yani bu bilimsel bir gerçek. Ona göre de belki bir yorumlardık. Kur'an'a göre olayı açıklardık. Ama tek bir tane ara fosil olmayınca, ama bak tek bir tane ara fosil yok Darwinistlerin dediği gibi. Ve bunun Darwin'in kendi de söylüyor, ara fosil yok diyor. Ayrıca bir proteinin tesadüfe meydana gelmesi de imkansız olduğuna göre, yani tek bir proteinin meydana gelmesi mümkün değil. Yani çünkü bir proteinin olması için başka bir proteine ihtiyaç var. Yani bu sıfır demektir. Bakın, bir protein var, başka proteini meydana getirebiliyor. Ama protein yoksa protein oluşamıyor. Şu kadar da bir ihtimal, bu kadar da bir ihtimal diye bir ihtimal yok. Hiç imkansızdır proteinin tesadüfe meydana gelmesi. Nitekim de Dawkins'e sorulduğunda uzaylılar yaptı diyor. Uzaylılar gelmiş olabilir, uzaylılar yapmış olabilir diyor. Buna benzer böyle komik açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla Darwinizm gerçekten bir safsatadır. Gerçekten bir dünyayla alay etmedir. Dünyaya söylenmiş büyük bir yalandır. Bilimsel olarak biz bu konuda zaten şimdi arkadaşlarımız konferansta açıklayacaklar. Ama detayda arkadaşlarımız merak ettiği konular varsa onlara da tabii soru olarak ayrıca sorabilirler. Bütün Fransız halkına, bütün oradaki Müslüman kardeşlerimize selamlar söylüyorum. Efendim anında çeviri yapılıyormuş. Efendim o yüzden konuşmamın daha efendim mülayemetle daha sakin söylenmesini istiyorum ama şöyle yapsın tercüme yapan arkadaş, yaklaşık söylerse o da olur. Yani mesela anlattıklarımın tamamını anlatması gereksiz, bir kısmını anlatması yeterli olur. Çünkü benim söylediklerimin onda biri bile yeterli olur yani bayağı. oradaki bütün Müslüman kardeşlerime hepsine selam ediyorum. Hepsine sevgi duyuyorum, saygı duyuyorum. Hristiyanlara, efendim, Musevi arkadaşlara, onlara da saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Orada ateist olan arkadaşlar varsa onlara da şefkatlerimi, onlara da arkadaşça, kardeşçe yaklaşımımı onlara ifade ediyorum. Çünkü onlar da Allah'ın bir kulu. Biz onlara öyle bir kinle, nefretle bakmayız. İyi olmalarını isteriz. Gönülleri rahat olsun. Biz Fransa'nın ekonomik yönden de güçlü olmasını, siyasi yönden de sağlıklı olmasını, Fransız devletinin, Fransız milletinin huzur içinde yaşamasını isteriz. Ama Allahsız olarak, dinsiz olarak toplumun mutlu olmadığını Allah bize gösterdi. Mümkün değildir, imkansızdır. Toplum ancak Allah sevgisiyle, şefkat, merhamet, sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik, fedakarlık hisleriyle mutlu olabiliyor. Bunlar gitti mi egoistlik, bencillik, hırçınlık, saldırganlık gelir. O yüzden İslam dinine, Kur'an'a sıkı sıkıya sarılmak Fransızlar için de bir berekettir, diğer milletler için de bir berekettir, güzelliktir, huzurdur, mutluluk kaynağıdır. Bütün insanlık yakın zamanda hem Mehdi'yi görecek hem de Hazreti İsa Mesih'i görecek. İsa Mesih'in bizzat kendisini görecekler. Bu yüzyılda insanlar bu şerefe nail olacaklar. Hatta 10 yıl içerisinde diyebilirim. Yani umuyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Çünkü ben belki emin olabilirim ama başkası için bunu söyleyemeyeceğim için 10 yıl içerisinde diyorum inşallah Allah'ın izniyle görecekler. Hem İslam'ın bütün dünyayı sevgiyle sardığını, şefkatle sardığını, bereket ve bolluk getirdiğini görecekler. Hem Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelip Kur'an'ı övdüğünü, Kur'an ahlakını övdüğünü görecekler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i övdüğünü ve sevdiğini görecekler. Dünya adeta bir bayram yerine dönecek. Biz buna altın çağ diyoruz. Şimdi o dönemdeyiz inşallah. İnşallah. Bu mutlu, güzel günleri orada bulunan bütün arkadaşlarımın ve bütün milletin, bizi dinleyen kardeşlerimizin de görmesini Allah'tan temenni ediyorum. İnşallah da göreceğiz. Allah sağlık sıhhat verirse. Herkese sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah güzel bir sohbet toplantısı olur, faydalı olur. Herkese hayırlı geceler diliyorum inşallah. Hayırlı sohbetler diliyorum.
Bonne soirée. Salut encore une fois. J'ai traduit approximativement.